En 10 ans, les bouchons ont augmenté de 50% en France. En cette saison, ils peuvent durer jusque très tard dans la nuit.
Le temps perdu se mesure en kilomètres. Les kilomètres de bouchons qui paralysent la ville, matin et soir.
On considère qu'une heure passée dans les transports coûte 11 euros à la société.
Vous écoutez Radio Campus Montpellier, 102.2.
Hello, bienvenue dans le Peak Time sur Radio Campus Montpellier, 102.2 FM. Que vous soyez tranquille chez vous, dans les bouchons ou encore au boulot, on va passer un très bon moment ensemble jusqu'à 17h30. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de handicap à l'université. Avant de commencer, je remercie Tom qui nous accompagne à la technique, sans qui tout ça ne serait pas possible. Pour parler de handicap, je vais dans ma chronique Vol plané vous parler du film Intouchable et un petit truc en plus. Puis, je diffuserai l'interview avec Sylvie Cana, vice-présidente du pôle handicap de l'université Paul Valéry et qui nous accompagnera d'une médecin de ce pôle.
Radio Campus Montpellier, 102.2 FM. L'expérience sonore.
Bienvenue dans ma chronique Vol plané. Pour ce rendez-vous étudiant, on se retrouve aujourd'hui pour parler de handicap à l'université. Arrivé à l'université, on vit notre vie de jeune adulte. On pense moins aux études qu'à faire la fête. C'est une période d'émancipation pour la plupart d'entre nous. Une période importante où on commence tous à prendre des choix dans notre vie. On s'oriente vers telle ou telle étude. Bref, c'est le début de la vie d'adulte. Pourtant, cette période d'émancipation peut être dure à vivre. On sait que notre génération de jeunes adultes souffre d'angoisse, de stress, plus que les autres générations. Mais alors, quand notre quotidien est rythmé par un handicap visible ou invisible, être jeune et étudier peut s'avérer extrêmement difficile. Se rendre à l'université, sortir, accéder à la culture, faire ses courses, vivre quoi? Eh bien, tout ça peut être vraiment difficile. Être étudiant, c'est devenir autonome, c'est s'émanciper. Mais comment pouvoir accéder à son autonomie? Comment pouvoir choisir ce que l'on fait quand la société nous met des bâtons dans les roues? Alors, avant l'interview du pôle handicap de l'université Paul Valéry, je vais vous parler de sciences sociales et de cinéma. Alors, restez confortablement installés. On passe tout de suite à la chronique en vol plané.
Radio Campus Montpellier, 102.2 FM. L'expérience sonore.
Comme chaque lundi dans le Peak Time sur Radio Campus Montpellier, on découvre ou redécouvre une œuvre par le biais des sciences sociales. Aujourd'hui, on va revenir rapidement sur deux films français à succès récemment sortis dans nos salles de cinéma. Quoi, récemment? Récemment est sorti Un petit truc en plus et en 2011, le film Intouchable. Ces deux films projettent le quotidien des personnes en situation de handicap, contribuant à changer nos visions, passant du discours d'exclusion faisant peser le poids du handicap sur les personnes à un discours d'inclusion des personnes handicapées. Intouchable, inspiré d'une histoire vraie, retrace la vie de Philippe, un riche aristocrate souffrant de tétraplégie qui décide d'embaucher Driss comme aide-soignant. Ce film touche énormément le public français et le sensibilise aux difficultés rencontrées au quotidien par les personnes handicapées, notamment au fauteuil roulant. Pourtant, manque de peau, une grande partie des salles de cinéma français ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Cette situation scandaleuse propulse les problématiques vécues au quotidien par les personnes handicapées au devant de la scène. Relevant le manque d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans l'espace public, comme la rue, les magasins, les cafés. Alors que l'accès de la culture est extrêmement important, celui-ci relève plus souvent d'une possibilité que d'une certitude pour les personnes en situation de handicap. Pénalisant et rendant compliqué l'accès à une vie normale, juste par manque d'infrastructures, l'accès à la culture comme à l'enseignement est très souvent limité par le manque d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. À l'université, les étudiants se confrontent très souvent aux escaliers pour se rendre en cours, pour aller à la bibliothèque ou encore pour manger au Crous. En 2022, ce sont 58 000 étudiants en situation de handicap qui étudient dans l'enseignement supérieur. L'accès à l'espace, mais également un accompagnement par des professionnels est essentiel afin de les inclure durablement dans le système scolaire. C'est la loi de 2005 intitulée « Pour l'égalité des droits et des chances », la participation à la citoyenneté des personnes handicapées votée par le gouvernement Raffarin qui rend obligatoire la mise en place d'infrastructures permettant aux personnes en situation de handicap d'accéder aux bâtiments publics, à leur résidence ou encore aux transports en commun. Dans quelques mois, cette loi aura 20 ans. Mais alors, est-ce qu'elle permet de rendre les lieux culturels accessibles partout ? La réponse est mitigée. Mais les conditions d'accès se sont améliorées. La fondation Malakoff Humanis Handicap relève que 75% des personnes handicapées ont fréquenté au moins une fois par an un lieu culturel au cours des dernières années en 2017. Dans leur enquête Handicap et Culture publiée en 2023. Le cinéma reste la première destination des personnes en situation de handicap pour 87% d'entre eux et elles. Et les trois quarts des sorties s'effectuent accompagnés d'un proche. Ainsi, l'accès à la culture comme à l'enseignement ne doit pas relever d'une possibilité mais d'une certitude pour les personnes en situation de handicap. La sortie du film Un petit truc en plus en mai dernier, qui est le premier film d'Artus et également le plus grand succès de l'année au box-office français, relate l'histoire de deux cambrioleurs, père et fils, qui se cachent pour échapper à la police dans une colonie de vacances pour adultes en situation de handicap. Artus, qui joue le personnage principal du film, doit se faire passer pour une personne ayant un handicap mental pour aller en colonie de vacances et échapper à la police. Son père sera son éducateur. Les autres personnes du film sont réellement handicapées dans le film, mais également dans la vraie vie. C'est un acte fort et ironique qui vient basculer les habitudes du cinéma. Puisque la plupart du temps, au cinéma, pour des rôles de personnes handicapées, ce sont des personnes valides qui jouent, imitant donc réellement un handicap qui n'ont pas. Le film couronné de succès a été porté au Festival de Cannes. C'est une grande première pour les acteurs qui n'ont jamais joué auparavant dans un film et qui sont handicapés. Pourtant, aucune marque d'habit ne voulait au départ prêter leur tenue aux comédiens en situation de handicap. Artus s'est exprimé publiquement sur le plateau de France Inter.
Non, je comprends pas pourquoi. Bah là, on nous sort des histoires de quotas en disant ah mais on a déjà prêté tous nos costumes, hein, on a déjà prêté, voilà. Donc
vous n'y croyez pas?
Non, je pense que bah c'est toujours plus élégant pour une marque d'habiller hein, d'habiller Brad Pitt que d'habiller
voilà. Artus.
Bon, déjà Artus et alors encore plus des acteurs en situation de handicap.
Son coup de gueule a été entendu. Et il a rapidement obtenu un contrat avec la maison Kering de François Pinault. Cette polémique montre, encore une fois, tout le chemin qui reste à faire pour une société 100% inclusive. Nous avons besoin de nous battre pour inclure les personnes en situation de handicap, que ce soit un handicap physique ou mental. Ce sont des personnes comme Sylvie Cana, vice-présidente déléguée aux situations de handicap à l'Université Paul Valéry, prenant une vraie politique de l'inclusion qui nous montre l'exemple.
Radio Campus Montpellier 102.2.
Alors sans tarder, nous allons passer à l'interview avec Sylvie Cana et une médecin de l'équipe de Handi Études que j'ai interviewé à l'occasion de la journée de formation handicap. Donc déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom et votre métier ?
Bonjour, donc moi je m'appelle Sophie Fruit, je suis médecin au SUMS, dans le service universitaire de médecine préventive. J'ai débuté là en début d'année. Donc je suis médecin dans ce service, ça veut dire que j'accueille les étudiants en situation de handicap déjà pour aider à l'aménagement de leur cursus, mais aussi de manière générale, je suis là pour accueillir avec mon équipe aussi d'infirmières les étudiants qui pourraient avoir besoin de nous pour des raisons médicales diverses et variées pour aider à les accueillir, à les accompagner, à les orienter.
Quand vous parlez d'accompagnement, ça se traduit en quel type d'accompagnement ?
Alors on accueille les étudiants en consultation, c'est-à-dire que quand ils viennent dans le service, ils sont d'abord reçus par une infirmière qui fait le point avec eux sur leur état de santé, notamment leur santé aussi mentale, éventuellement récupère leurs demandes, leurs désirs particuliers, et puis ensuite ils sont reçus par moi ou d'autres collègues médecins pour approfondir un petit peu les demandes médicales et essayer de répondre à leurs besoins.
On va revenir un peu sur la création du pôle handicap juste après. Est-ce que Sylvie Cana, vous pouvez vous présenter?
Oui, bonjour. Donc Sylvie Cana, vice-présidente déléguée aux situations de handicap et enseignante aussi, hein, prof en sciences de l'éducation. Et j'ai mis en place un master qui s'appelle EPSIN, Éducation, Pédagogie, Société Inclusive, pour former les référents handicap, aussi bien du public que du privé. Et donc, en quoi consiste cette fonction de vice-présidente? C'est pas simplement ouvrir des jolies journées comme les journées handiformation, c'est comment dire, organiser toute la politique inclusive de l'établissement en accord avec une équipe présidentielle et donc Anne Fraisse, que je remercie d'ailleurs pour son soutien par rapport à toutes nos actions. Elle est très impliquée par rapport à toutes ces questions autour du handicap. Et donc toute la politique inclusive s'est énormément structurée depuis 3 ans, où nous avons mis en place pas mal de services et d'actions pour accompagner les étudiants en situation de handicap, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de parcours de formation. Voilà.
Donc justement, on se retrouve aujourd'hui pour cette 15e journée handiformation. Sylvie, vous venez, vous, au départ du milieu hospitalier, médico-social. Est-ce que vous pouvez revenir un peu, comment vous êtes entrée dans l'université justement en tant que chercheuse du master que vous avez créé? Parce que j'ai l'impression que vous avez vachement impulsé quand même le pôle handicap de l'université Paul Valéry.
Donc mon parcours, je suis tombée dans le milieu à 18 ans. Donc c'est la psychose qui m'a formée, hein, ou qui m'a déformée, je ne sais pas. Et donc, dès que j'ai quitté le lycée, je suis allée travailler en tant qu'éduque stagiaire, ça s'appelait comme ça, éduque stagiaire dans le médico-social avec des personnes psychotiques. Puis ensuite, j'ai traversé différents milieux par rapport à cette fonction. Puis j'ai été enseignante spécialisée. Puis ensuite, effectivement, j'ai fait une formation de psy, etc. J'ai travaillé en psychiatrie aussi avec le docteur Bloch à Béziers à cette époque. Voilà, donc c'est tout ce parcours, si vous voulez, et surtout les publics qui m'ont appris ce que je sais. J'ai effectivement suivi des études et fait un concours, passé des concours pour être prof et pour être là où je suis aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire, les personnes qui m'ont le plus appris, sont les personnes que j'ai rencontrées qui étaient, on va dire, dans la souffrance ou dans des trajectoires atypiques, hors normes, et avec lesquelles il fallait toujours batailler pour qu'ils puissent trouver des espaces de vie possibles. Voilà, je dirais ça comme formation. Une formation par la pratique, une formation avec les usagers et les personnes.
On sait maintenant, surtout notamment depuis la loi 2005 qui a permis justement de scolariser de plus en plus d'élèves au collège, au lycée, au sein des universités. Donc maintenant, il y a une politique d'inclusivité, plus que de propre individu, de remise en question peut-être même du système éducatif par une inclusivité des étudiants, des élèves en situation de handicap. Au niveau de Paul Valéry, où est-ce que vous en êtes justement dans cette politique d'inclusivité?
Donc nous avons mis en place déjà, on va dire, une gouvernance. On a essayé d'étayer plusieurs services, d'étayer nos étudiants avec à l'appui plusieurs services. Donc il y a le SUMS qui est très important puisque c'est le service de médecine. Il y a le service Handi Études qui est au plus près des étudiants, qui les reçoit pour l'expression de leurs besoins et aussi pour les accompagner. Donc c'est le service qui se situe là. Et nous avons aussi un pôle qui s'appelle le pôle Handinnovation qui a été créé pour m'aider aussi à développer tous les projets qu'on développe ici à l'université Paul Valéry. Donc c'est un une grosse structuration déjà d'un point de vue de la gouvernance, avec des moyens qui ont été mis et des personnes qui ont été recrutées pour accompagner nos étudiants. Donc première chose. Et ensuite, c'est une vision aussi du handicap qu'on essaye de faire passer, ou des situations de handicap. On essaye vraiment de former et sensibiliser la communauté universitaire. Donc il y a un gros travail pour qu'il y ait des référents handicap dans tous les services et toutes les composantes pour travailler avec nos services. Et ensuite, donc ça c'est au-dedans de l'université, mais il y a un gros travail au-dehors puisqu'on est très inscrit dans le territoire. On travaille avec la mairie dans le cadre du conseil en santé, le conseil local en santé mentale, on en fait partie. On travaille avec le CHU, on travaille avec les cliniques, on travaille avec la maison départementale du handicap, avec le médico-social. Donc on a énormément de partenaires et c'est ce qui nous permet de monter tous nos projets et d'accompagner au mieux nos étudiants. Parce que les besoins ne sont pas uniquement sur le campus par rapport à leurs études, mais les besoins, c'est aussi être accompagné par rapport aux soins, être accompagné si on n'ose plus sortir parce qu'on est autiste, on n'ose plus sortir de chez soi, par exemple, pour aller faire ses courses à un moment donné. Donc, il faut des relais. On a construit des relais avec, entre autres, le CRA, avec Atypi Friendly, avec, on a monté un PCPE, pôle de compétences externalisées, avec l'ADAGE, pour prendre en charge toutes ces situations complexes qu'on rencontre ici. Et c'est vrai que les personnes d'Handi Études qui sont très très engagées auprès des étudiants, faisait toujours remonter des situations où elles étaient un peu démunies. Elles disaient, mais nous, on ne peut pas agir. Et pourtant, il nous dit qu'il ne mange pas depuis une semaine parce qu'il n'arrive plus à sortir, à faire ses courses. Alors, j'en avais qui me disaient, mais moi, je vais y aller, je vais passer, je vais aller faire ses courses. Donc, elles sortaient du cadre réglementaire, si vous voulez. Nous, c'est uniquement par rapport à la fac. Donc, du coup, on a dû... inventer des dispositifs. Et c'est vrai qu'on est très en avance par rapport au national sur les dispositifs qu'on a mis en place. Et on continue à en inventer puisqu'on va peut-être mettre en place un DAR pour travailler sur la transition lycée-fac pour les gens autistes, les gens qui ont un trouble TSA ou TND. Et puis on va mettre en place peut-être aussi un autre service avec un établissement médico-social, mais pour l'instant je ne le citerai pas puisque ce n'est pas encore mis en place, mais pour suivre les jeunes qui ont des troubles psy à l'extérieur. Pour les accompagner, ça sera une équipe d'éduc, par exemple, qui pourra les accompagner lorsqu'il y aura des soucis et que ça touchera leur parcours universitaire.
Donc, vous avez dit que c'était vraiment depuis 3 ans que le pôle handicap s'était développé. Donc, ce service à l'extérieur, il s'est développé depuis ces 3 ans, si...
Oui, oui, on le fait remonter à 3 ans, excusez-moi, hein, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est vrai qu'il y a eu un vrai choix politique de la part de la présidente de nommer une vice-présidente sur ça, qui quand même connaissait le secteur, il faut bien le dire, et qui a eu la chance de rencontrer aussi des partenaires comme les partenaires du SUMS et des jeunes qui étaient prêts à travailler, à développer cette politique. Donc ça a facilité énormément les choses. Je peux citer Joris Boukman qui travaille avec moi, qui connaît très très bien les réseaux et qui travaillent, qui développent des choses extraordinaires. Donc c'est aussi tous nos jeunes qui travaillent avec nous, qui comment dire, sont très rapides, ont un autre rapport au rythme, au temps, au réseau, donc ça va beaucoup plus vite.
Et donc maintenant j'aimerais aborder un peu plus donc, le personnel qui accompagne les étudiants tous les jours. Combien de médecins, d'infirmiers et d'infirmières sont présents à l'université Paul Valéry?
Alors au sein du service du SUMS, nous sommes 3 médecins, 3 infirmières, nous avons 2 psychologues, donc ça fait une équipe quand même assez complète pour accompagner les étudiants. En fonction des jours, ça peut être l'un ou l'autre, mais évidemment après les informations circulent, on parle entre nous, donc voilà. Donc on est une équipe multidisciplinaire, on va dire, avec chacun des rôles un petit peu différents, des formations un petit peu différentes. On a une médecin qui est plus orientée sur la nutrition, moi j'ai plus une formation d'addictologie, on a un médecin qui est mieux formé par exemple aux urgences pour répondre aussi parfois aux problématiques d'urgence qui viennent sur le campus. Donc on a une psychologue qui est plus orientée sur la psychologie analytique, on a un psychologue qui est plus orienté sur les thérapies comportementales. Et donc en fait, dans l'ensemble, on se complète bien tous ensemble pour essayer de répondre au mieux aux besoins des étudiants.
Et comment vous avez réussi à justement avoir une équipe de médecins autant complémentaires, parce que personnellement souvent dans les universités c'est vrai qu'on a 1 ou 2 médecins qui est en charge justement du handicap et qui peut accompagner les étudiants.
Alors moi j'ai été recrutée par le docteur Judith Petro-Gross qui est donc la directrice, la chef de service, et c'est vrai que je pense qu'elle a très à cœur de trouver des profils qui soient adaptés aux besoins sur le terrain. Après moi, j'ai été recrutée donc là en début d'année, donc je sais pas exactement comment c'était les années précédentes, mais c'est vrai qu'à en discuter avec elle, avec Judith Petro, ça a été tout de suite, disons une rencontre professionnelle intéressante sur le fait que moi j'étais sensibilisée aux problématiques d'addiction, aux problématiques de santé sexuelle, donc des choses qui déjà dans mon parcours me donnait un bagage intéressant pour accompagner les étudiants. Et donc ça c'est vrai qu'elle est très en recherche de personnes qui pourraient enrichir son équipe parce qu'elle connaît les besoins des étudiants et que du coup elle va chercher des gens qui peuvent répondre à ses besoins.
Et aujourd'hui vous savez à peu près combien d'étudiants en situation de handicap vous accompagnez à l'université Paul Valéry?
Alors, il y a 1500 étudiants en situation de handicap. Je regarde un peu Sylvie pour le joker, parce que moi, je suis en début d'année. Après,
1500 se déclarent et 880 sont accompagnés, ont des aménagements d'études.
C'est
22 000 étudiants en tout pour l'université Paul Valéry. Il y a un site aussi sur Béziers. Il y a 2 services.
Oui, c'est assez impressionnant. Et du coup, est-ce que vous travaillez aussi avec les autres universités de Montpellier? Comment se passe aussi la connexion entre l'Université des Sciences? Comment ça se passe concrètement?
Alors concrètement, on est des structures indépendantes. C'est-à-dire que nous, on a le service du SUMS qui est propre à la faculté Paul Valéry, et il y a un autre service de prévention pour l'Université de Montpellier, et donc la faculté des sciences. Donc c'est des pôles qui sont distincts. Après, évidemment, s'il y a besoin, il y a quelques étudiants qui sont dans des situations particulières, on peut évidemment communiquer avec eux, mais ce sont des services distincts.
Donc par rapport à l'UM, nous travaillons ensemble dans le cadre du dispositif ATP Friendly. Donc on travaille avec le centre de ressources autisme, le service du docteur Bagdadli. On travaille très très bien avec ce service et ça a été structuré. Donc du coup, on a des réunions en commun, par exemple dans le cadre d'ATP Friendly, avec le CRA et avec les personnes référentes à l'UM. Voilà. Donc on a quand même des partenariats sur certaines choses. Le PCPE, quand on l'a mis en place avec l'ADAGE, j'ai demandé aussi à l'UM de faire partie, enfin de travailler avec nous. Donc du coup, le PCPE, c'est aussi un dispositif pour les étudiants de l'UM. Vous voyez, on a partagé quand même certaines choses.
Voilà, j'avais une autre question. Est-ce que par rapport aux professeurs, qu'est-ce que ça a changé pour eux d'avoir du coup une politique extrêmement inclusive des personnes en situation de handicap? Est-ce que ça a changé leur représentation, leur façon de faire cours, de s'adapter, voilà.
Pour ce qui a changé déjà concrètement, c'est qu'il y a des référents handicap dans les composantes. Donc quand les jeunes ont des aménagements, ces référents le disent au prof, hein, ils disent voilà, faire attention, il y aura un tiers-temps à aménager ou une salle isolée ou attention, dans votre amphi, on ne va pas nommer la personne, on ne va pas dire la problématique, mais voilà, déjà il y a un relais dans les composantes par rapport au prof. Par contre, là cette année, le grand chantier qui va être lancé, c'est sur la pédagogie universelle ou, si vous voulez, la question de l'accessibilité des cours à tous. Parce que là, on est beaucoup dans de la compensation, mais ce qu'il faudrait mettre en place, c'est une formation. Et un étayage pour que les profs puissent rendre par exemple des documents accessibles à tous, aussi bien qu'on soit dyslexique ou malvoyant, faut qu'on puisse rentrer sur le document de différentes manières. Donc on est en train de travailler pour avec un petit groupe et avec d'autres universités, hein. On a Limoges, on a Nantes, etc. qui travaillent aussi là-dessus avec nous pour vraiment transformer les pratiques pédagogiques. Mais c'est vraiment un grand chantier et c'est tout à fait nouveau. On est au balbutiement, on va dire, de la chose.
Oui, parce qu'il faut rappeler que du coup, les mesures qui sont mises en place pour les étudiants en situation de handicap, c'est des mesures compensatoires. Donc, ce qui veut dire qu'on va essayer de compenser l'accès à des cours, donc surtout pour, comme vous avez dit, les dyslexiques et les non-voyants qui ne peuvent pas accéder ou qui ont du retard énormément sur les cours, sur le rythme scolaire et ce pendant toute leur scolarité. Donc c'est vrai que cette nouvelle politique est assez inédite quand même, même au niveau français, au niveau national. Donc voilà, grand bravo à vous.
Vous nous direz bravo dans 2 ans si ça a changé les choses, si maintenant l'enseignement à distance a aménagé par exemple plus de podcasts, des choses comme ça, parce qu'on trouve encore du PDF qui est souvent peu accessible, donc il va falloir qu'on change vraiment tout ça. Et c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir un service qui s'appelle l'atelier et qui accompagne les profs aussi pour pouvoir faire des documents accessibles, inclusifs, des PowerPoint inclusifs, etc. Donc on a vraiment un groupe de recherche là-dessus. Intéressant.
Oui, parce que du coup, je ne suis pas encore revenu, mais un peu sur les journées d'anti-formation. Donc, c'est tout un groupe de chercheurs qui est ici à l'Université Paul Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la création de ce groupe?
Oui, en fait, ce n'est pas un groupe de chercheurs, c'est en fait... Comment dire, on travaille avec Joris Boucmont, donc du pôle en innovation, et on organise ces journées. On en organise 7 par an et on fait appel effectivement à des experts, on fait appel à des usagers, on fait appel à des étudiants. À chaque fois, on veut qu'il y ait à la fois la parole un peu plus scientifique, mais aussi la parole de l'usager. Moi, au quotidien, qu'est-ce que ça donne et comment on peut faire? Et donc, ces journées sont construites comme ça, selon cette logique où la parole est donnée à tous et pas simplement à des grands pontes qui nous feront des leçons sur la chose.
Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter ou c'est bon pour vous?
Oui, ben on peut dire que nous sommes contents d'avoir pu témoigner à Radio Campus et on vous remercie.
Et voilà, après avoir fait cette petite chronique vol plané pour parler de handicap et après avoir interviewé Sylvie Cana, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même place, sur Radio Campus Montpellier. Et on dit un grand merci à Tom à la régie sur 102.2 FM. À très vite!